Au micro, Idrissa Seloudia, bonjour, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Le cofondateur des talibans, le mollah Abdul Ghani Baradar, est rentré mardi en Afghanistan, à peine 2 jours après la prise du pouvoir, les nouveaux maîtres du pays assurant que leurs adversaires seraient pardonnés et que les femmes seraient respectées selon ce qu'ils appellent les principes de l'islam. Les talibans sont prêts à protéger l'accès à l'aéroport de Kaboul pour les civils évacués par les Américains, a assuré mardi le conseiller du président Joe Biden à la sécurité nationale, Jake Sullivan, ajoutant l'intention des États-Unis de les faire respecter cet engagement. Des milliers d'Américains vivant en Afghanistan et d'Afghans ayant aidé les Occidentaux veulent quitter le pays de peur des représailles des talibans, mais ils sont toujours bloqués à l'extérieur de l'aéroport dans des zones contrôlées par les insurgés. M. Sullivan a toutefois fait état d'informations selon lesquelles des personnes auraient été refoulées, repoussées ou même battues en chemin vers l'aéroport. Nous nous en saisissons par le biais d'un canal avec les talibans pour essayer de résoudre ces problèmes. Mais dans l'ensemble, a-t-il estimé, les gens ont pu arriver à l'aéroport. À Berlin, le chef de la diplomatie allemande a déploré, lui, les entraves des talibans contre des Afghans candidats au départ, disant qu'ils ne laissent passer que les étrangers. Les États-Unis ont continué mardi à renforcer leur dispositif militaire à l'aéroport de Kaboul pour accélérer le rythme des évacuations. John Lindon fera le point. Le président Joe Biden et le premier ministre britannique Boris Johnson ont convenu lors d'un entretien téléphonique hier de participer la semaine prochaine à un sommet virtuel du G7 sur l'Afghanistan. En Afrique, un nouveau massacre de civils, des gens cultivant leurs champs, a été perpétré dans l'ouest du Niger, proche du Mali, par des djihadistes présumés tuant au moins 37 personnes, ce qui porte à plus de 450 le nombre de morts dans cette région depuis le début de l'année. Par ailleurs, l'une des figures de la société civile burkinabé, Pascal Zaïda, a été remis en liberté hier, 3 jours après son arrestation pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, déclaration subversive et incitation à la rébellion, a-t-on appris auprès de ses proches. Des habitants d'un quartier d'habitants où a séjourné une jeune Guinéenne diagnostiquée positive au virus Ebola, le premier cas confirmé en Côte d'Ivoire depuis 1994, ont été vaccinés mardi, ont constaté des journalistes de l'AFP. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, des affrontements ont opposé l'armée à des miliciens dans la province orifère d'Ituri, où 3 ressortissants chinois sont portés disparus depuis dimanche. En Algérie, la police a annoncé l'arrestation de 25 suspects, ce qui porte à 61 le nombre des personnes appréhendées pour le lynchage et l'immolation d'un homme accusé à tort de pyromanie en Kabylie, une région ravagée par des feux de forêt. Les autorités gambiennes ont imposé la vaccination obligatoire contre le COVID-19 à tous les employés du tourisme menaçant les entreprises du secteur de se voir privés de leur autorisation d'exercer en cas de manquement. Les vols Air France entre Paris, Kinshasa et Brazzaville n'embarquent désormais plus de passagers entre les capitales des deux Congos à la demande des autorités du Congo-Brazzaville qui craignent un regain de contamination au COVID-19 à cause du variant Delta qui circule à Kinshasa, a-t-on appris hier auprès de la compagnie. Le puissant séisme qui a frappé samedi le sud-ouest de Haïti a fait 1941 morts, ont annoncé hier les autorités locales, tandis que plusieurs milliers d'autres personnes ont été blessées et plus de 37 000 habitations détruites. Les États-Unis, qui ont évacué une quarantaine de personnes pour des soins urgents avec 3 hélicoptères des gardes-côtes, ont affrété 8 hélicoptères de l'armée depuis le Honduras pour continuer les efforts d'évacuation médicale. L'USS Arlington, un navire de transport de la marine américaine, doit également arriver mercredi en Haïti. La suite de nos informations. Les États-Unis ont renforcé mardi leur dispositif militaire à l'aéroport de Kaboul pour accélérer les évacuations. Les militaires américains sécurisent le tarmac et ont établi une ligne de communication avec les talibans qui contrôlent la capitale afghane. L'armée américaine a évacué plus de 3200 personnes, notamment du personnel américain, à l'aide d'avions militaires, a indiqué mardi un responsable de la Maison-Blanche sous couvert d'anonymat. En plus de ces 3200 personnes, près de 2000 réfugiés afghans ont été évacués vers les États-Unis, a indiqué ce même responsable. D'autres détails avec John Linden.
Un millier de soldats américains sont arrivés dans la nuit, a indiqué le général Hank Taylor, un responsable de l'état-major américain. Les renforts doivent se poursuivre pour permettre d'accélérer les évacuations et les porter à un vol par heure au cours des prochaines 24 heures, a-t-il précisé. Les États-Unis soulignent que les opérations n'ont pas été entravées par les talibans et que les soldats afghans qui n'ont pas capitulé sont parvenus à rejoindre l'aéroport de Kaboul et participent aux opérations d'évacuation. Selon le porte-parole du Pentagone, John Kirby, une ligne de communication directe a été établie entre l'armée américaine et les talibans à la suite de la rencontre dimanche à Doha entre le général Kenneth McKenzie, chef du commandement central américain, et les dirigeants talibans. Pour leur part, les talibans ont assuré hier que la guerre était terminée et que tous leurs adversaires seraient pardonnés, a déclaré leur porte-parole, Zabihullah Mujahid. Il a déclaré que les talibans vont bientôt former un gouvernement, mais il a donné peu de détails sur sa composition. Peu avant sa conférence de presse, le numéro 2 des talibans, le Mollah Abdul Ghani Baradar, est arrivé en avion à Kandahar, dans le sud du pays, en provenance de Doha.
Ouverture du procès Thomas Sankara en octobre prochain. La justice burkinabé a annoncé hier que le procès de l'assassinat du chef de la révolution burkinabé en octobre 1987 va démarrer le 11 octobre. De Ouagadougou, notre correspondant Kader Traoré.
Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été froidement tués le 15 octobre 1987 lors d'un putsch. Pendant les 27 ans de règne de Blaise Compaoré, le dossier n'a jamais vraiment avancé. Mais depuis la chute de M. Compaoré en 2014, ce dossier a été réactivé. Selon le communiqué du procureur militaire près le tribunal militaire de Ouagadougou rendu public hier mardi, ce procès va enfin démarrer le 11 octobre. Le communiqué précise que cette audience de la chambre de jugement sera délocalisée dans la salle des banquets de Ouagadougou 2000 et sera ouvert au public, comme ce fut le cas lors du procès du putsch manqué de septembre 2015. En avril dernier, la justice militaire a confirmé les charges et mis en accusation 14 personnes. Parmi les prévenus, il y a l'ancien président Blaise Compaoré, considéré comme le cerveau et le bénéficiaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Dans le dossier, Blaise Compaoré, aujourd'hui en exil en Côte d'Ivoire, est poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, de complicité d'assassinat et de recel de cadavres. L'autre personnage central de cette affaire est le général Gilbert Diendéré, déjà condamné dans le coup d'État contre la transition en 2015. Lui répondra des faits d'attentat à la sûreté de l'État, de complicité d'assassinat, de subordination de témoins et de recel de cadavres. Thomas Sankara avait pris le pouvoir en 1983 à 34 ans. Il a lancé la révolution démocratique et populaire avant d'être assassiné en 1987 par son ami Blaise Compaoré, alors numéro 2 de la révolution. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
47 migrants africains sont portés disparus et probablement morts en mer alors qu'ils tentaient de gagner l'Europe à bord d'une embarcation au large de la Mauritanie. Le point avec Nani Talani.
L'embarcation partie de la région de l'Aïoun dans le Sahara occidental le 3 août à destination des îles Canaries en Espagne a connu une avarie de moteur et a dérivé pendant près de 2 semaines avant d'être repérée lundi par les gardes-côtes mauritaniens au large de Nouadhibou, a précisé un responsable de l'OIM, Nicolas Auchard. Au départ, il y avait 54 personnes à bord, tous Africains de l'Ouest, dont 2 enfants de moins de 3 ans et une adolescente, tous 3 disparus. Selon l'OIM, lorsque le moteur a flanché, les migrants se sont retrouvés sans eau ni nourriture. Le voyage, qui prend quelques jours si tout se passe bien, a duré 2 semaines. Environ 300 personnes au moins sont mortes ou portées disparues depuis le début de l'année sur la route atlantique vers les îles Canaries, porte d'entrée en Europe.
La Muniteco, John Linden.
Au Cameroun, Freeland First Bank s'appuie sur le crédit bail pour financer les entreprises. À travers Flash Leasing, cette banque propose une nouvelle offre aux petites et moyennes entreprises pour soutenir leur développement. Selon Financial Afrique, depuis le lancement de ce programme en 2018, Freeland First Bank a injecté 65 milliards de francs CFA pour le financement de 423 entreprises qui ont affecté la quasi-totalité des fonds mobilisés pour l'achat du matériel roulant. Au Tchad voisin, le gouvernement a lancé mardi un transfert monétaire pour 22 000 familles. Selon Financial Afrique, chacune des familles vulnérables recevra une somme de 120 000 francs CFA en une seule fois pour les aider à faire face aux conséquences de la pandémie du COVID-19. Cette opération est menée dans le cadre du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil soutenu par la Banque mondiale. Le montant global mobilisé pour cette aide financière est d'environ 3 milliards de francs CFA. À Abidjan, plus de 192 pays membres de l'Union postale internationale sont réunis en ce moment, selon Afrique Tribune, c'est pour plancher sur la stratégie 2021-2024 de l'Union postale universelle, appelée stratégie d'Abidjan. Ce rendez-vous d'experts doit également faire la part belle au développement du e-commerce, entendez le commerce en ligne, en Afrique. Il s'agit du premier congrès de l'Union postale universelle qui se tient en Afrique subsaharienne en 147 ans et le second après celui de 1934 en Égypte.
Merci John. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Algérie, Côte d'Ivoire, Égypte, Nigeria seront les chocs du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le Cameroun, pays hôte, affrontera en ouverture le Burkina Faso le 9 janvier à Yaoundé, selon le tirage au sort effectué hier dans la capitale camerounaise. Le Cameroun, justement, accueille la compétition 50 ans après sa précédente organisation. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition avec notre correspondant Emmanuel Jeunetap qui a assisté à la cérémonie. Et justement, pour le pays d'accueil de cette édition, la CAN est une lueur d'espoir. Le Cameroun, l'une des principales économies de la région, tourne en effet au ralenti, frappé par la crise du Covid-19 et deux conflits sur son territoire. Le gouvernement rassure sur l'avancée des travaux, mais à quel prix? Élément de réponse avec Bagassi Koura.
C'est à Yaoundé que se jouera le 9 janvier 2022 le match d'ouverture de la prochaine CAN. Après moult polémiques et retard dans les travaux, les 60 000 places du stade d'Olembé sont installées. La pelouse est déjà bien verte. Jugé incapable d'organiser en temps et en heure la CAN 2019, le Cameroun a été remplacé au pied levé par l'Égypte. L'heure de la revanche a donc sonné pour le pays. Narcisse Mouel-Okombi est le ministre camerounais des Sports et président du comité d'organisation de la CAN 2021.
La CAN, à grand trait, apparaît comme une activité de souveraineté, de rayonnement international et de prestige de l'État camerounais. C'est pour cela que l'État camerounais y a investi des moyens considérables.
Mais ces investissements considérables vont-ils profiter aux Camerounais? Rien n'est moins sûr pour Dimitri Mebenga. Il est chef du service de sport au quotidien Mutation. Il y voit un gouffre financier.
C'est vrai que ça nous procure des infrastructures, mais ça fait saigner le contribuable camerounais. Lorsque vous avez un stade dont le coût initial était de 163 milliards et que le président consente à un déblocage de 55 milliards de plus, sans justifier le pourquoi est-ce que le coût a été ajouté.
Mais les professionnels du tourisme, eux, veulent croire que la CAN peut relancer l'économie du pays en attirant à nouveau des visiteurs. Cet hôtel 4 étoiles à Yaoundé s'est ainsi lancé dans des travaux d'agrandissement. Françoise Puyenet est le PDG de l'hôtel Franco.
Moi, je suis tellement fière de me préparer, de m'apprêter à accueillir cette CAN-là pour faire renaître davantage la confiance aux femmes, aux jeunes, arriver à construire par eux-mêmes l'Afrique.
Pour l'instant, même si le gouvernement se veut rassurant, les polémiques vont toujours rentrer dans le pays sur le retard des travaux d'infrastructure. Deux parcs hôteliers et plusieurs routes sont encore en cours de construction. et dans le complexe d'Olembe, seul le stade semble pouvoir être prêt à temps.
Merci, Bagassi.
Merci, Yacoub. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Avec la prise de pouvoir rapide des talibans en Afghanistan, le président nigérian Muhammadu Buhari avertit que la guerre contre le terrorisme n'est pas terminée, mais se déplace vers l'Afrique. Écrivant dans le journal Financial Times, M. Buhari soutient que pour vaincre le terrorisme, l'Afrique a besoin de l'aide militaire américaine, mais surtout d'investissement. D'Abuja, Timothée Obiezu fait le point. Le récit est de Michel Joseph.
Le président nigérian a averti dans un article d'opinion publié par le Financial Times dimanche que le départ des États-Unis d'Afghanistan ne signifie pas la fin de la guerre contre le terrorisme. Muhammadu Buhari écrit que la menace se déplace vers une nouvelle ligne de front en Afrique. Il pointe du doigt des groupes djihadistes comme Boko Haram, le groupe État islamique au Sahel, Al-Shabaab en Somalie, une insurrection croissante au Mozambique et même dans l'est de la RDC. Mais Buhari déplore que les alliés occidentaux, meurtris par leur expérience au Moyen-Orient et en Afghanistan, ne donnent pas la priorité à l'Afrique. Le porte-parole du président n'a pu être joint dans les médias pour commenter. Kabirou Adamou, expert en matière de sécurité, partage l'avis du président.
Il est très probable que les développements en Afghanistan vont certainement stimuler les groupes terroristes en Afrique. Cela va les faire regarder la situation dans son ensemble, c'est-à-dire le fait que la résilience et la poursuite de leurs efforts peuvent mener à la victoire.
Alors que Buhari salue les frappes américaines en juillet contre Al-Shabaab en Somalie, il souligne que les forces américaines sur le terrain en Afrique ne sont pas ce dont on a besoin. Selon lui, l'Afrique a le plus besoin d'investissements dans les infrastructures pour aider à fournir des emplois et des opportunités économiques à la population qui croît rapidement et qui a presque doublé depuis 2001. Selon lui, le manque d'opportunités et le chômage aident à alimenter le groupe Boko Haram. M. Buhari note également les attaques dans la région de Cabo Delgado au Mozambique, riche en gaz naturel mais fournit peu d'emplois aux habitants. Le fondateur du magazine de sécurité Global Sentinel, le sénateur Ivo Egbu, affirme que les groupes terroristes africains ne sont pas uniquement alimentés par la pauvreté.
Vous savez qu'il y a une concurrence subtile entre ces groupes djihadistes. Depuis que les talibans ont enregistré ce succès, d'autres comme Al-Qaïda ou le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest rivalisent aussi pour montrer ce qu'ils sont capables de faire.
Dans son article, M. Buhari écrit que si l'Afghanistan nous a appris une leçon, c'est que bien que la force puisse émousser la terreur, le retrait de cette force peut provoquer le retour de la menace. Le Nigeria combat Boko Haram depuis 2009, le conflit s'étendant au Cameroun, au Tchad et au Niger voisin. On estime que plus de 30 000 personnes ont été tuées et des millions déplacées.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le retour triomphal des talibans à Kaboul, 20 ans après en avoir été chassés par l'armée américaine. La prise de la capitale afghane avant même la fin du retrait américain a surpris Washington et ses alliés occidentaux. L'administration de Joe Biden, sous le feu des critiques, défend sa décision de retirer les troupes américaines suite à un accord à Doha entre les talibans et les États-Unis sous Donald Trump. Quelles sont les conséquences du retour des talibans au pouvoir en Afghanistan pour la région et les États-Unis? Nous allons débattre de tout cela ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
La prise de contrôle rapide de l'Afghanistan par les talibans fait craindre que cela puisse encourager d'autres groupes islamistes dans le monde, comme Al-Shabaab en Somalie. Les experts craignent que si les forces internationales tentent de remettre la sécurité au gouvernement somalien, le monde pourrait voir une répétition de ce qui s'est passé en Afghanistan. De Mogadiscio, un reportage de Mohamed Kahiye de la VOA, repris ici par Rosine Mounezero.
L'ancien responsable du renseignement somalien, Abdul Salam Goulaïd, a déclaré que la Somalie pourrait connaître une évolution similaire, à moins que le gouvernement somalien ne mette fin à sa dépendance excessive vis-à-vis des troupes internationales. Il a pris la parole lundi, un jour après que les médias pro-Al-Shabaab en Somalie ont célébré la chute du gouvernement afghan au profit des talibans.
Al-Shabaab ne possède pas la puissance militaire des talibans. Il ne fait aucun doute que rien ne va les arrêter s'ils choisissent cette voie.
En avril, les forces armées somaliennes ont assumé un rôle de premier plan dans leurs opérations, comme indiqué dans un plan de transition pour la Somalie approuvé par le gouvernement et la mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. Le plan est une stratégie dans laquelle les soldats de la paix de la MISOM transféreront progressivement les responsabilités de sécurité aux agences de sécurité somaliennes avant un retrait. Le plan signé en 2018 prévoit une réduction des effectifs. Le mois dernier, l'armée a déclaré que plus de 250 militants d'Al-Shabaab ont été tués lors d'opérations militaires somaliennes sans l'aide de la MISOM. S'exprimant lors d'un entretien avec les médias locaux, le conseiller à la sécurité nationale du président somalien, Abdi Saïd Ali, a fermement rejeté toute comparaison des situations sécuritaires à Mogadiscio et à Kaboul, ou de l'armée somalienne aux forces afghanes. Abdi Saïd Ali, conseiller à la sécurité nationale.
Al-Shabaab et les talibans ne sont pas les mêmes, quelles que soient les croyances des gens. Les forces armées somaliennes contrôlent actuellement et sont responsables de la sécurité dans la plupart des régions du pays avec le soutien des soldats de la MISOM.
Al-Shabaab a été chassé de Mogadiscio en 2011 par les forces somaliennes et de l'Union africaine, mais le groupe mène toujours des bombardements et des attaques éclairs. Il a récemment menacé de perturber les élections somaliennes en cours, avertissant les délégués tribaux de ne pas participer au processus.
Au Bénin, les autorités menacent de faire raser un quartier de Cotonou. L'argument, c'est que ce village de pêcheurs a été installé illégalement. 632 ménages, soit plus de 3000 habitants ciblés, devront quitter ce quartier au plus tard, le 1er septembre. Les habitants affirment avoir suivi les règles et appellent le président béninois à la rescousse. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Ces dégapissements sont annoncés au nom de l'assainissement. Il s'agit de Fillon, un village de pêcheurs situé sur la côte de Cotonou et qui s'est construit au fil des générations tout au long de la route des pêches située dans le 12e arrondissement de Cotonou. Même l'autorité locale est surprise par la décision et confie ne rien comprendre. Maké Kengpa est le chef de ce quartier.
C'est une grande surprise parce que je ne m'attendais pas du tout. Vu les démarches qu'on a eu à mener à l'endroit du directeur de la NDF, cette décision n'est pas du tout la bienvenue. Je m'attendais à ce que, d'ici quelques temps, qu'une décision soit favorable à cette population.
Pour justifier sa décision, le gouvernement explique dans un récent communiqué que les travaux de lotissement de la zone n'ont pas été approuvés par les autorités compétentes. Faux, souligne Mac Akono, un résident du quartier.
Ce lotissement a été mené au niveau de l'intérieur, précisément sous l'égide de la Commission nationale des affaires domaniales. Le ministère a pris des ordres de recruter un cabinet de géomètres pour le faire. Ce cabinet a reçu bel et bien et sa lettre de commande du ministère date du 17 août 2001.
Certains résidents comprennent le bien fondé de la décision mais appellent à un dégapissement non brutal.
Ça fait un peu mal, mais nous on est obligés de supporter, on n'a pas le choix. Moi principalement, moi j'ai eu la chance quand même d'avoir une avance pour me déloger. Mais il y a d'autres qui n'ont pas trouvé, il y a d'autres qui ont trouvé l'argent, mais ils n'ont pas trouvé la place. Donc
il y a des cas qui vont faire mal. Moi par exemple, ça doit me faire mal, j'ai dépensé beaucoup, mais j'ai cassé tout ça. Ça fait mal aujourd'hui, mais demain ça serait bon.
Les gousses l'eau vont diminuer. Donc je vois que ça va donner un bon image pour notre pays.
tout ça là, l'État en train de voir tout ça là.
Pour certains habitants, cette urbanisation sauvage qui veut tout détruire sur son chemin n'est pas une bonne chose. Mais les acteurs engagés dans le projet d'aménagement de la côte maritime du littoral insistent sur l'aspect sécuritaire et celui de protection de l'environnement. Philippe Zoménou est le coordonnateur du programme de protection du littoral.
La protection des côtes, c'est une initiative du gouvernement pour protéger, sécuriser et permettre à l'environnement physique de la banque côtière de tenir bon face à l'érosion côtière.
Pour Dr Corneille François Kadouidé, directeur général de l'ABE, l'agence béninoise pour l'environnement, l'État a permis cette situation en manquant de fermeté.
Il y a eu un laisser-aller, appelons ça comme ça, qui a fait que les textes ne sont pas venus pour réglementer dès le début.
Ce n'est pas bien, on a fait des lotissements et puis on amène le courant jusque là, c'est pour les encourager.
Le 1er septembre n'est pas loin et les Cotonois pourraient assister à un déguerpissement sous haute tension parce que la population qui s'est installée le long des côtes n'envisage pas s'en aller de leur maison construite en matériaux précaires pour la plupart. De Cotonou, Jeanette Fuadandé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les six poules de la Coupe d'Afrique des Nations de football de janvier prochain au Cameroun sont connues. Le tirage au sort a eu lieu hier à Yaoundé en présence du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Le match d'ouverture va mettre aux prises le Cameroun au Burkina Faso. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap, qui a suivi pour nous cette cérémonie.
Le pays organisateur va jouer l'Éthiopie, le Cap-Vert et le Burkina Faso en match d'ouverture. Cette composition du groupe A a été très appuyée dans la salle, mais elle ne garantit pas pour autant l'accès au second tour pour le Cameroun, prévient l'ancien gardien de but camerounais, Joseph Antoine Bell.
On ne connaît pas bien l'Éthiopie et non plus le Cap-Vert. Donc on pourrait penser que c'est un groupe facile, alors que c'est piégeux. Il faut absolument que les joueurs et leurs entraîneurs fassent très attention, parce que le Burkina Faso est bon, parce que le Cap-Vert est difficile à manœuvrer, que l'Éthiopie sait jouer au football.
Dans le groupe B, le Sénégal va livrer un duel ouest-africain face à la Guinée-Conakry. Ses deux autres adversaires sont le Malawi et le Zimbabwe. Eladi Diouf, ancien attaquant des Lions de la Teranga, est plutôt confiant.
On sait que toutes les équipes vont vouloir battre le Sénégal, ne serait-ce que pour la confiance. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est bien outillé. Là où on est, il n'y a personne qui a envie de rencontrer le Sénégal, parce qu'on a des très grands joueurs et on a une très bonne équipe. Et je crois que maintenant, ce qu'il faut faire, je demande à mon pays et à tous les amoureux du football d'être derrière le Sénégal pour aller décrocher son premier titre.
Dans le groupe C, le match choc va opposer le Maroc au Ghana. Deux équipes qui vont devoir aussi défier un adversaire de taille, le Gabon. Le Comore fait office de petit poussin. L'une des belles affiches de la CAN va mettre aux prises l'Égypte au Nigeria. Dans le groupe D, Soudanais et Bissau-Guinéens complètent cette poule. Tout le monde attendait le sort réservé à l'Algérie, le champion en titre. Les Fenech souffrent un duel épique face aux éléphants de Côte d'Ivoire dans le groupe E. La Guinée équatoriale et la Sierra Leone sont des outsiders. Enfin, la Tunisie hérite du Mali, de la Gambie et de la Mauritanie, des formations qui se connaissent bien. Corentin Martins, entraîneur de la Mauritanie.
En Égypte, on avait déjà dans notre groupe le Mali et la Tunisie. La Gambie, qu'on a déjà joué dans les, il y a quelques années. Et, des équipes qu'on connaît, en tout cas le Mali et la Tunisie qu'on connaît bien, eux aussi nous connaissent. Donc on va essayer déjà, nous, de bien préparer ces matchs-là et de faire mieux que ce qu'on a fait en Égypte en 2019. Les ambitions sont les mêmes que la Tunisie, le Mali et la Gambie. C'est bien sûr de passer le tour, de terminer dans les deux premières équipes de ce groupe pour espérer aller plus loin. Mais on va se concentrer déjà sur le premier match et on verra les autres au fur et à mesure.
Le président de la CAF, Patrice Motsepe, pense que le niveau de la CAN s'annonce suffisamment relevé. Un véritable challenge pour les défis du football africain. Patrice Motsepe, président de la CAF. Le coup d'envoi de la CAN sera donné le 9 janvier prochain. La compétition se dispute sur 5 sites. Emmanuel Zulta, Yaoundé, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.